Moore est un petit peu plus grand que moi. N'est-ce pas? Un petit peu plus grand que moi. Ça me fait plaisir de vous présenter M. Bullmore. Ce matin, on va être en traduction simultanée. Alors, si vous n'êtes pas déjà procuré les écouteurs à l'arrière, vous pouvez courir rapidement, aller vous en procurer, synthoniser le 104.7. Essayez-le tout de suite. Si jamais vous avez des problèmes techniques avec la réception, on vous demande discrètement de vous rendre à l'arrière et les jeunes filles qui sont là-bas vont vous aider soit à changer d'appareil ou soit à ajuster la synchronisation s'il y a quelque chose, d'accord? Alors, vous pouvez en profiter, là, c'est votre dernière chance pour vous rendre à l'arrière. Monsieur Bullmore est le frère qui a apporté la conférence hier ici à l'église. C'était vraiment un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un frère que je suis depuis quelques années sur Internet et à travers Gospel Coalition. C'est un des fondateurs de Gospel Coalition dont je vous ai déjà parlé. C'est un mouvement qui inspire ce qu'on a fait à travers Sola, tout ça. Mike Bullmore a été utilisé par le Seigneur pour implanter une église, Wisconsin Community Church, Crossway Community Church, excusez-moi, il y a 15 ans. Et préalablement, avant ça, il était professeur de d'homilétique, c'est-à-dire de prédication, entre autres, à Trinity. Il était professeur là-bas et maintenant, ensuite de ça, il est venu implanter cette église. Il travaille là-bas comme pasteur principal au niveau de l'enseignement, de la prédication et de la vision pour diriger toute l'église. Je suis content qu'on puisse l'avoir ici ce matin. En fait, s'il est ici, c'est parce que cette semaine, il va être le conférencier pour la pastorale provinciale. Alors, je prends le temps de vous parler de la pastorale une petite seconde pour vous demander vos prières. À chaque année, notre association d'église organise une retraite pour les pasteurs et leur épouse. C'est pas une conférence très intensive où il y a énormément d'enseignements, mais on s'assure à chaque année d'avoir un bon enseignant de la parole de Dieu et ça se veut un temps de repos, un temps de recueillement, un temps où les ouvriers peuvent se retrouver. Il y a des ouvriers qui arrivent là-bas dans toutes sortes d'états, des épouses de pasteurs qui arrivent là dans toutes sortes d'états. Certains sont dans la joie. D'autres ont vécu une année difficile, des fois dans leur santé, des situations dans l'Église, toutes sortes de circonstances. Et c'est un temps où on est là pour se reposer, prendre soin les uns des autres. Et M. Bullmore va avoir un ministère envers nous cette semaine. Alors, si vous voulez prier pour nous, s'il vous plaît, presque tous les anciens de l'Église vont être là. Il y a seulement Michel qui va être parti à l'extérieur, comme j'ai mentionné, en vacances. Alors, Alexandre va être là avec Cynthia. Robert va être là, pas avec Jasmine cette année, mais Robert va être présent. Danny va être présent aussi avec nous, avec Rachel, Esther et moi, on va être là aussi. Et priez pour nous, priez pour que Dieu vienne bénir les ouvriers. Et j'attends beaucoup de ce moment-là de pouvoir se placer sous le ministère de Mike Bullmore pour l'enseignement de la parole. Mike est un homme qui, vous allez le voir rapidement, c'est un homme qui est humble. Lui-même dirait, tous les hommes sont orgueilleux, n'est-ce pas? Mais ce qui transpire de son ministère, c'est un ministère d'humilité, un ministère où il y a du temps sérieux qui est consacré à méditer les Écritures, à méditer la parole de Dieu pour laisser aller se placer sous le ministère de la parole de Dieu lui-même comme pasteur. Alors, c'est pas quelqu'un qui vient avec des nouvelles méthodes, une nouvelle vision, on va prendre des moyens, on va faire ci, on va faire ça, mais plutôt qui dit, plongeons dans les Écritures, laissons la parole de Dieu réformer nos cœurs et apportons ça à l'Église et au monde autour de nous. Et cela transpire de son ministère, de sa prédication. Alors, je suis vraiment content qu'on puisse se placer sous son ministère ce matin et vous allez me donner quelques instants pour aller m'installer pour la traduction. If you want to come, Mike, and lead us in the Word, and give me a few seconds to get ready to translate for people. Alors, nous sommes prêts. Je veux commencer premièrement par en exprimant ma reconnaissance à Yannick et à Jessica parce que ces deux personnes hier et aujourd'hui m'ont aidé à me sentir bienvenu. J'ai eu une belle expérience et je crois que d'autres vont continuer à être une bénédiction pour moi. Et je crois que Dieu va se servir de moi pour bénir d'autres, mais moi-même, j'ai reçu des bénédictions à travers le ministère ici. Alors, je suis reconnaissant pour cet bel accueil que j'ai reçu ici de la part de votre pasteur, de Jessica aussi particulièrement. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin à cette église, mais aussi d'être au Québec, à Montréal. C'est la première fois pour moi que je visite Montréal. Et une fois que je suis ici, je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de venir visiter. J'ai beaucoup aimé jusqu'à présent. On m'a donné une belle chambre à l'hôtel et je suis donc au-dessus de la rivière. Je peux voir Montréal et je vois le stade olympique, la rivière. C'est très beau. Et hier, après la conférence, François Turcotte et Nathalie m'ont amené visiter et on est allé au Mont-Royal et je pouvais donc voir toute la ville. Et François m'a présenté les différents éléments importants de la ville. Et hier, après notre visite, François m'a amené manger à un restaurant où j'ai mangé de la poutine. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. Alors, c'est une pile et c'était très goûteux. Je voudrais pas manger ça tous les jours, mais François a pris une photo de moi en train de manger de la poutine afin que je puisse envoyer ça à ma famille. Et j'ai parlé à ma famille hier et je leur ai demandé « Est-ce que vous avez vu la photo? » Ils ont dit « Oui, c'est magnifique. » Alors, mon fils était très impressionné par cette poutine. Sans aucun doute, la plus grande bénédiction d'être ici est de pouvoir rencontrer autant de gens, de différentes assemblées, des pasteurs de l'association et des gens de Sembec. Alors, je suis très reconnaissant à Dieu. Et je suis reconnaissant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et j'espère que Dieu va vous parler ce matin. Mais j'ai aimé la louange, même si je n'ai pas pu chanter avec vous ce matin. J'écoutais certaines paroles, je les reconnaissais. J'aurais aimé qu'il y ait moins de distance entre vous et moi. Mais je suis reconnaissant pour la traduction. Et je crois que Dieu va vous parler directement à travers la traduction aussi. Alors, je suis content de ce privilège et je désire être fidèle ce matin dans mon service pour vous. Je veux vous servir fidèlement ce matin et servir Dieu fidèlement. Alors, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Romains 8. Comme vous le savez, la lettre aux Romains est un livre important. Bien sûr, tous les livres de la Bible sont magnifiques, mais ce livre-là a un poids particulier, une importance particulière, un impact particulier dans l'histoire de l'Église. Ce livre, quand vous entendez parler de l'impact qu'il a eu chez Augustin, chez Martin Luther, sur Wesley aussi, et a eu un impact important sur l'histoire de l'Église. On demande à ceux qui ont des écouteurs de baisser un peu le volume, s'il vous plaît, de vos écouteurs, afin que les autres puissent bien entendre directement l'anglais, s'il vous plaît. Alors, nous allons regarder Romains 8, 18 jusqu'à 29, je crois. Alors, jusqu'à 39. Écoutez attentivement la lecture de la parole de Dieu. Romains 8, 18. Voici la parole de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Prions. Père, quel merveilleux et profond passage qui parle à nos âmes, qui nous fortifie. Quelle vérité dans ce passage. Père, nous sommes conscients de nos besoins. Je suis conscient de mes faiblesses personnelles. Alors, Père, nous te demandons ton aide. Nous sommes conscients non seulement de nos faiblesses, mais aussi de tes promesses. Tu nous dis que tu vas nous donner ta parole pour fortifier notre foi, fortifier l'Église, fortifier le peuple que nous sommes. Alors, nous prions que tu nous parles ce matin. Père, je te prie de venir appliquer ta parole à chacun des cœurs, car toi, tu connais les besoins de chacun. Alors, Seigneur, je te demande, prends ta parole et viens l'appliquer dans le cœur de ton peuple. Qu'il apporte de la force, que tu viennes déposer une semence qui portera du fruit, qui durera pour ta gloire. En Jésus, nous te prions. Amen. Alors, pendant le temps où j'ai pu enseigner au séminaire Trinity, il y avait un autre membre de la faculté, quelqu'un pour qui moi-même et tous les membres de la faculté avaient beaucoup de respect, c'était presque de la révérence. Et pour moi, comme jeune membre de la faculté, j'avais souvent l'impression d'être là un peu par erreur, de ne pas être à la hauteur de ce groupe-là. Et j'étais très impressionné dans mon cœur par cet homme. Cet homme s'appelait Murray Harris. Il était professeur des études du Nouveau Testament. Non seulement était-il un grand érudit, mais M. Harris était aussi un homme humble, chaleureux. Il était une personne merveilleuse. Je l'ai toujours vu comme un Samuel. J'avais l'impression qu'il portait avec lui la présence et l'autorité de Dieu. Je me rappelle d'un automne en particulier où M. Harris avait été invité à s'adresser à toute la faculté, nous conduire dans la parole pour commencer cette année. Et je n'oublierai jamais comment il a commencé cette année. Je crois que je peux citer les deux premières minutes de cette adresse par cœur. Il s'est levé et il a commencé comme ceci. Je suis content de ne pas avoir à choisir. Si je devais choisir entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je choisirais le Nouveau Testament. Je suis content de ne pas avoir à choisir. Mais si je devais choisir un livre dans le Nouveau Testament, je choisirais le livre de Romains. Je suis content de ne pas avoir à choisir. Mais si je devais choisir un chapitre, je choisirais le chapitre 3. Je suis content de ne pas avoir à choisir. Mais si je devais choisir, je choisirais les versets 12 à 25. Je suis content de ne pas avoir à choisir. Si je devais le faire, je choisirais le verset 25. Et il termina en disant, « Je suis content de ne pas avoir à choisir, mais si j'avais à choisir, je choisirais le mot propitiation. » Et pour les 45 prochaines minutes, il nous a exposé le sens de ce mot, de ce qu'il signifie pour nos vies, pour nous, de ce que Christ a accompli en notre faveur. Alors, quelques années après, j'ai eu le privilège de manger à une table avec Jerry Bridges et je lui ai partagé cette histoire. Et je lui ai partagé exactement comment lui nous l'avait présenté. Et si vous ne connaissez pas Dr. Bridges, c'est un homme très respecté. Il m'a écouté avec beaucoup de respect. Et Dr. Bridges a dit à la fin, « Vous savez ce que moi je choisirais? » Et lorsqu'un homme comme ça dit cela, vous écoutez. Et Dr. Bridges a dit, et il a dit 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'était pas péché a été fait pour pécher pour nous, afin que nous soyons justifiés. » Après ce repas, j'ai réalisé que j'ai commencé à réfléchir, à me demander quel passage je choisirais. Si je devais choisir un passage en particulier, quel serait-il? Et je crois que pour moi, je crois que ce serait ce passage que nous regardons ce matin, dans Romains 8. Je crois que tout ce dont vous avez besoin de tout ce qu'il y a ici, mais ce dont vous avez besoin est ici, dans Romains 8. Ces versets en particulier que je vous ai lus sont devenus très précieux pour moi. C'est mon passage préféré de toute la parole de Dieu depuis plusieurs années. J'ai dit à mes enfants, à mes funérailles, si quelqu'un peut simplement lire ce passage, cela va me suffire. Ce passage n'est pas seulement précieux pour moi, mais il a été très formateur pour moi. Je crois qu'il nous présente une manière de voir le monde, une manière de vivre qui a vraiment formé ma manière de vivre, de répondre aux circonstances qui se présentent dans ma vie, aux bonnes choses, aux choses difficiles, aux choses heureuses, aux choses tristes. Ce passage m'aide à vivre comme un chrétien dans ce monde, avec les réalités de ce monde, avec les différents défis de cette vie. Considérant la nature de la vie chrétienne, ce que c'est, les vérités qu'il y a dans ce passage sont critiques. Contrairement pour Adam et Ève, au tout début, avant la chute dans le péché, lorsqu'ils étaient dans une communion constante avec Dieu, face à face avec Dieu, comme c'était. Contrairement à ce que ce sera aussi lorsque nous serons dans la présence de Dieu, dans le futur, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où nous pourrons interagir, comme le livre de l'Apocalypse nous dit, en voyant Dieu face à face, nous marcherons par la vue et non par la foi. Contrairement à ce que c'était et à ce que sera, pour l'instant, nous voyons comme à travers un verre. Et c'est comme ça pour nous maintenant. La vie est remplie de défis. Les choses ne sont pas faciles. Comment réfléchir et agir? Que faire? Ce n'est pas toujours clair. Ce monde et notre vie comme chrétiens peut être très confus, sale, boueuse, difficile. Et des fois, nous devons essayer de comprendre, discerner comment nous devons réagir. Ce que nous devons faire dans cette vie. De telle sorte à ce qu'en vivant dans ce monde comme un chrétien, cela nous demande d'avoir une vision, une manière de voir et de comprendre la vie, ce qui nous entoure, ce qui nous arrive. Et sans cela, notre vie chrétienne va être difficile. Alors voici ce que nous devons saisir, c'est que notre tendance naturelle, notre tendance par défaut, notre pilote automatique nous amène à vivre la vie en nous appuyant sur nos propres forces, en nous appuyant sur nous-mêmes, même si on vous enseigne comme chrétien à faire confiance à Dieu, notre mode par défaut nous ramène toujours à faire confiance à nous-mêmes, à nous appuyer sur nos propres ressources et nous appuyer sur nos propres forces. Mais Dieu, dans sa grâce commune pour nous, nous a donné beaucoup de ressources, c'est vrai, mais la réalité, c'est qu'elles sont tout de même très limitées. Nos ressources personnelles, l'environnement de notre vie ont tous été affectés par l'égoïsme, par notre nature pécheresse. Ainsi, si nous nous appuyons uniquement sur nous-mêmes, nos vies seront difficiles et ne seront pas à la gloire et n'accompliront pas ce que Dieu veut pour notre vie. La bonne nouvelle que la Bible nous apporte, c'est que Dieu est venu nous secourir. Dieu nous a secourus de cette manière de vivre. Nous a donné une nouvelle manière de vivre. Et il désire que nous vivions en lui faisant confiance. Il veut que nous vivions nos vies en l'aimant. Et plus important encore, il veut que nous vivions nos vies en étant conduits par lui. Il veut que nous vivions dans le bien de son amour durable qui ne nous laissera jamais tomber. Son désir, c'est que vivre dans son amour grandisse de plus en plus en nous et que cela devienne notre manière de vivre par défaut même. Et la question que je veux que l'on se pose ce matin, c'est comment grandir et développer cette maturité où nous vivons quotidiennement, jour après jour, dans l'amour de Dieu. Et la réponse à cela se trouve dans ce passage, en Romains 8. Ce passage dans Romains 8. Alors, apporte trois contributions spécifiques puissantes pour nous aider à vivre dans ces vérités en nous appuyant sur l'amour de Dieu. En comprenant ces vérités, cela va venir former notre manière de penser et de vivre. Ce sera un aide puissant pour vivre en ce sens. Alors, ce matin, j'aimerais vous partager ces contributions de Romains 8 qui viennent former notre manière de vivre. Trois contributions spécifiques. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. On pourrait passer un an à exposer ce simple chapitre. Mais ce matin, je veux diriger votre attention sur trois contributions spécifiques. Et je crois que Dieu va les utiliser pour nous aider à vivre dans son amour. Premièrement, alors, j'appelle ça le réalisme de Romains 8. Première contribution, c'est le réalisme de Romains 8. Alors, écoutez bien. Alors, je vais relire les versets 18 à 20. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Remarquez, s'il vous plaît. 8:20 nous dit « Toute la création a été soumise à la vanité ». La création. Ça inclut à peu près tout, n'est-ce pas? Alors, rien dans nos vies n'est exempt d'être soumise à la vanité, à la futilité. Nos corps sont soumis à cette futilité, cette vanité. Et vous le savez de votre propre expérience. Dans cette vie, notre santé ne sera jamais exactement comme nous le voudrions. Rien dans notre vie sera exactement comme nous le voudrions dans notre plein potentiel. Et plus longtemps vous allez vivre, plus vous allez le réaliser par vous-même. Il n'y a rien et personne ici ne peut éviter cette réalité. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour vos enfants. Tous, nous sommes soumis à cette vanité. Non seulement nos corps, nos maisons, toute la création, tout ce qu'il y a dans votre maison, vos meubles et votre jardin, votre terrain, sont tous soumis à cette vanité. Ce n'est pas que les choses matérielles, les amitiés aussi, votre mariage. Et je pourrais continuer tout ce qu'il y a dans la création. Mais je crois que vous comprenez ce que la parole de Dieu veut dire. Nous savons par expérience que nous vivons dans un monde déchu où les choses tombent en morceaux. Et toute la création est soumise à cette vanité. Et comme résultat, toute la création gémit, soupire. Comme il le dit, nous savons que toute la création attend avec un ardent désir. Et nous-mêmes, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons aussi. Alors, il y a cette futilité qui est manifeste partout dans toute la création. Rien n'est exempt de cette vanité. Et ce n'est pas seulement que les conséquences naturelles du péché. Je vais faire attention. Et notre péché lui-même n'est pas assez puissant pour causer des tornades ou des tremblements de notre terre. Il s'agit d'un acte de Dieu. Dieu l'a fait. Dieu a soumis la création à cette déchéance. C'est très clair au verset 21. Au verset 20, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alors, c'est Dieu qui, dans son jugement, a soumis toute la création. Et nous voyons très bien comment cela a un impact sur toute la création. Voilà l'effet. Paul en parlait dans les versets 18 à 20 de la malédiction. Dieu a maudit la terre. Nous vivons dans un monde maudit. Alors que personne d'entre nous ne peut éviter, chacun est affecté. Et un des aspects les plus difficiles de cette malédiction, c'est que cela n'est pas distribué également. Ce n'est pas partagé également. Ainsi, nos vies sont plus ou moins soumises à cette malédiction. Certains ont des vies plus difficiles. Une des choses les plus difficiles pour moi comme pasteur est de parler avec quelqu'un qui semble souffrir davantage de cette malédiction par la maladie ou d'autres formes. La Bible nous dit que des choses terribles arrivent même au peuple de Dieu. Nous voyons ça au verset 35-36. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Personne n'est exempt. Pour votre foi, nous sommes mis à mort tout le jour. Alors, lorsque vous faites face à des choses difficiles dans cette vie, qui sont frustrantes, qui sont contrariantes, ou lorsque vous réfléchissez aux possibilités qui pourraient vous arriver, les maladies, les choses qui pourraient mal tourner, qui pourraient vous pourriez être tenté de vivre dans l'inquiétude ou dans la peur ou du doute ou de la colère. Mais vous devez vous rappeler que ce n'est pas Dieu qui n'est pas au contrôle. Ce n'est pas qu'il y a une voie plus facile que nous avons manqué de suivre. C'est ainsi que ce monde est et qu'il sera. Alors, nous devons nous tourner vers Dieu et faire confiance à Dieu en chaque circonstance, et cela ne vous mettra pas à l'abri de perdre votre travail. Cela ne signifie pas que vos enfants ne seront pas malades, qu'ils pourraient mourir. Romains 8, le réalisme de Romains 8 nous enseigne que tout dans la création, Dieu ne suspendra pas les effets de la malédiction pour votre vie. Toute la création est soumise à cette malédiction. Par contre, il a fait autre chose aussi. Et il fait autre chose. On va y arriver dans quelques instants. Mais toutes ces autres choses qu'il a faites ne viennent pas nous retirer de cette malédiction et de cette souffrance. Nous devons nous rappeler cela régulièrement. Et nous devons le rappeler aux frères, aux sœurs, aux gens autour de nous. Pas dans un esprit pessimiste, mais simplement pour bien comprendre les choses. Autrement, lorsque vous faites face à des épreuves, si vos attentes sont que Dieu va vous garder de toute lutte, de toute détresse, quand ils vont venir, vous allez être très vulnérable et vous aurez tendance à vous inquiéter ou vous serez en colère. Alors laissez Romains 8 guider votre esprit afin que vous ayez une juste vision du monde. Dans ce monde chrétien, et d'aucune manière, cela devrait vous empêcher de vivre dans l'amour de Dieu. Alors, deuxième contribution, la confiance qui nous vient de Romains 8. Le réalisme de Romains 8, la confiance de Romains 8. Alors, écoutez attentivement, laissez la parole de Dieu ouvrez vos esprits. Je vais lire les versets 28 et suivants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Je vois deux choses dans ce passage. Deux confiances que vous devriez avoir alors que vous vivez comme un chrétien dans ce monde. Premièrement, une confiance que Dieu est à l'œuvre en toute chose. Toutes créatures ont été soumises à la futilité, mais Dieu travaille en toute chose. Même dans ce monde affecté par la futilité, Dieu est à l'œuvre. Nous savons, Paul nous dit, que Dieu est à l'œuvre en toute chose. Voyez, Dieu se réserve le droit, malgré les frustrations et les futilités, de les tourner, de les utiliser afin qu'elles œuvrent en faveur de ses projets pour ceux qui habitent à lui. La malédiction est là, mais Dieu renverse, dans un certain sens, malgré les souffrances, cette malédiction et transforme la souffrance, le travail, afin qu'il produise de bons fruits dans notre vie, afin d'accomplir ses projets dans notre vie. Et c'est une promesse qu'il nous donne. Et il promet de le faire à chaque instant, en toute chose. Voilà une promesse extraordinaire pour fortifier notre confiance. Nous devons nous rappeler de cela. Nous devons nous le rappeler les uns aux autres régulièrement. Dernièrement, j'ai eu le privilège de voir ceci s'accomplir dans la vie d'un jeune couple de notre Église qui ont eu un premier enfant, ils étaient excités. Mais pendant l'accouchement, quelques temps après la naissance, l'équipe médicale est venue les voir et leur ont dit qu'il y avait une complication. Alors, vous savez, ce qu'il y a dans le cœur d'un parent ou d'un enfant lorsqu'ils entendent cela de la part de l'équipe médicale, complication. Alors, on se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de complication? Est-ce que c'est sérieux? Certains d'entre vous avaient peut-être vécu cela. Ce jeune homme, ses parents ne pouvaient être avec lui. Ils ne pouvaient l'accompagner, le prendre dans leurs bras. Ils ne pouvaient que le regarder à travers une vitre. Ils ont vu leur petit garçon avec tous ses tubes et toutes ces choses qui étaient attachées à lui. Et pour une semaine, ils ont regardé leur enfant lutter entre la vie et la mort. Lorsque vous êtes là, à cet endroit, dans cette situation, si cette confiance que nous donne Romains, que Dieu est à l'œuvre en toutes choses, si cette confiance de Romains 8 n'est pas là dans votre cœur, vous allez vous sentir mal dans cette situation, vous ne comprendrez pas bien, vous n'arriverez pas à vous confier en Dieu, vous n'arriverez pas à prier comme il le faut. Vous allez être anxieux et peut-être en colère contre Dieu parce que nous sommes tous fragiles. Même si nous savons cette vérité, quand nous vivons ces situations, nous devenons très vulnérables. Alors, on doit s'apporter la vérité l'un à l'autre. Alors, ce père m'a raconté qu'il a reçu un texte sur cellulaire. Et c'est la première chose au milieu de tout ce trouble émotionnel qu'il a dirigé lui et son épouse vers la pensée de Dieu. C'est d'être rappelé de cette vérité dans cette situation. Et il m'a appelé. Il m'a dit exactement ce qui était écrit dans le texte. Et il a dit, je les ai écrits. Ils étaient tellement profonds. Pasteur, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir dans ce moment-ci notre focus, notre attention sur l'amour de Dieu et son amour pour nous. Vous voyez, avec ce genre de promesses qui viennent de Romains 8, 28, vous devriez atterrir. Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Verset 31-32. Alors, pourquoi serions-nous inquiets? Voilà la première confiance que Dieu est en train de travailler toutes choses pour notre bien. Il y en a une deuxième. Et c'est la confiance que malgré tous les défis de cette vie, nous sommes absolument en sécurité en vue des choses qui comptent vraiment dans l'éternité. Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important ultimement? C'est votre relation avec Dieu en Jésus-Christ. Regardez le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et puis il nomme toutes ces choses. Et la réponse, bien sûr, c'est aucune d'entre elles ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Au verset 38, il le dit très clairement, 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, et toutes ces choses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Remarquez, ces promesses sont là dans la Bible pour nous fortifier. Dieu les a mis là parce qu'il veut nous communiquer clairement. Il veut que nous sachions, que nous comprenions ce qu'il veut nous communiquer. Il est en train de nous dire, il nous donne ses promesses afin de fortifier, de construire notre confiance et nous aider à vivre au milieu des épreuves dans son amour, confiant dans sa fidélité, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si vous êtes en Jésus-Christ pour votre salut, vous êtes en sécurité sans aucun doute. C'est vraiment l'argument qu'il fait ici. 29 et 30. Rappelez-vous comment cela commence? celui qui savait d'avance qui nous connaissait, ceux qu'il a prédestinés, il ne les perdra pas. Alors, quoi qu'il arrive dans votre vie, la chose la plus importante est inébranlable. J'ai lu dernièrement ces paroles de Charles Spurgeon. Il a dit, « Il y a bien des choses qui pourraient ou n'arriveront pas, mais je sais ce qui n'arrivera pas. Il présentera mon âme sans faute et entière devant la face de sa gloire afin que je puisse jouir de sa présence. » Voilà une promesse qu'il a donnée et il est fidèle et elle est pour tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Il est un Dieu qui garde ses promesses pour chacun de ses enfants et il tiendra ses promesses. Mes amis, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes à jamais en sécurité parce que l'amour de Dieu en Jésus-Christ est pour vous. Et cette confiance de Romains 8 que Dieu désire que vous possédiez va contribuer grandement à votre vie jour après jour, grandissant de plus en plus dans cet amour fidèle, inébranlable de Dieu. Une troisième et dernière contribution que je désire vous relever dans Romains 8, nous pouvons l'appeler l'espérance de Romains 8. Le réalisme de Romains 8, la confiance de Romains 8 et l'espérance de Romains 8. Regardez bien à partir du verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce que vous entendez le verset 21? La création sera libérée, affranchie. C'est un futur. Nous attendons, comme peuple de Dieu, une intervention de Dieu où Dieu va complètement renverser la malédiction et il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nouveaux cieux, pensez-y. Une nouvelle terre. Une nouvelle humanité. Combien le plan de Dieu est merveilleux et vaste. La vie chrétienne n'est pas seulement une religion privée. Regardez ce que Dieu a dans son cœur. Alors, le christianisme n'est pas une préférence religieuse personnelle, mais cela va nous affecter personnellement, individuellement. Rappelez-vous cette promesse du verset 18. Une heure, un Dieu. En une heure, Dieu va racheter toutes les souffrances de ce monde à nos yeux. Pensez à ce que Dieu a comme plan éternel pour nous. Notre foi dans cette promesse, qui est répétée peut-être une centaine de fois, est fondée sur le fait que nous attendons impatiemment. Quoi? La liberté, la libération de la gloire des enfants de Dieu. Je considère que nos souffrances actuelles sont peu de choses en comparaison de cette gloire qui sera manifestée, la rédemption de nos corps et de toute la création. Au verset 25, il dit, « Si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. » Vous remarquez ceci? Persévérance, patience, sans inquiétude, sans peur, mais avec patience, jour après jour, année après année, nous vivons à la lumière de cet amour fidèle, inébranlable de Dieu. Quels seront les effets de tout ceci? Quels seront les effets de vivre à la lumière du réalisme, de la confiance et de l'espérance de Romains 8, mais je crois que les effets seront profonds dans votre vie, dans ma vie. Elles vont vous aider à vivre différemment. Toute votre vie, même les moments difficiles, et elles vont vous aider dans votre vie à être un encouragement et une aide pour les gens qui vivront eux-mêmes, traverseront des difficultés. Un des plus grands encouragements qui peut nous être donné pour vivre ainsi est de voir d'autres personnes vivre selon ces principes. N'oubliez jamais cela. Votre vie peut avoir un impact profond sur la vie des autres. Mais je crois aussi, je pense aussi à une église remplie de personnes qui vivent ainsi ces principes. Qu'est-ce que cela pourrait avoir l'air, le témoignage de cela devant le monde? Le témoignage de cela pour attirer des gens à ce genre de vie. Bien des gens qui vivent à la lumière de ces vérités. Quel impact cela peut avoir? Peut-être que la culture est différente ici, mais lorsque j'étais petit, alors il y a eu les piscines hors terre qui sont apparues lorsque j'étais petit. Vous n'aviez plus besoin d'être riche, vous pouviez avoir une piscine dans votre cour. Et en une semaine, c'était construit. Alors tout le monde avait des piscines hors terre. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Alors, tous les enfants du quartier voulaient sauter dans la piscine. Alors, ce que nous faisions, nous sautions dans cette piscine et nous faisions un courant. Hein, n'est-ce pas? On tournait ensemble dans la même direction, tout autour de la piscine, à l'intérieur. Et cela créait un courant assez fort dans cette piscine. C'est impressionnant, l'effet. Lorsque plusieurs personnes avancent dans une même direction, l'effet que cela peut avoir. Et voilà ce que cela peut produire dans une église. Cela aide la personne qui vit. Si vous êtes en train de faire un courant, les autres personnes autour de vous vont être aidées, vont être emportées par cela. Pour une personne qui n'a jamais vécu ces principes, mais qui le voit vécu dans une église, imaginez l'impact que cela peut avoir sur sa vie. De voir des gens qui réagissent différemment, vivent différemment. Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien, ce sont des gens qui vivent, en effet, à la lumière de l'amour fidèle, inébranlable, éternel de Dieu. Chers amis, je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais plus je vieillis, moins j'ai le désir d'être héroïque. En tout cas, de la manière que je concevais l'héroïsme dans ma jeunesse, je veux de plus en plus vivre une vie calme où je profite de ma famille, je veux avoir des relations fidèles, fiables. Et le fait que Dieu nous appelait à être un témoin, à briller, vivre avec un style de vie, comme ici dans Romains 8, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir ce genre de vie, le réalisme, la confiance et cette grande espérance de vivre et ainsi de diriger les gens vers cet amour fidèle, inébranlable, éternel de Dieu qui nous donne tant de joie en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, lorsque nous disons des mots comme ceux-ci, des paroles semblables dans ta Bible, nous désirons être transportés et sortis de situations que nous vivons actuellement. Des fois des impacts de nos péchés, et nous voudrions être libérés de tout cela et aller dans ta présence à jamais. Mais jusque-là, je te demande, Seigneur, de garder nos cœurs émerveillés par ton amour pour nous. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.